Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous écoutons ce que l'humain peut percevoir dans toute sa diversité. Cette semaine, laissons-nous porter par une voix scientifique d'une grande curieuse et chercheuse du vivant. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ?
Christine Vassiliadis, j'ai 50 ans. J'enseigne la botanique, mais aussi l'écologie, la génétique des populations, les statistiques pour biologistes, etc. à tous les niveaux à l'université. Et depuis 2 ans, je suis co-responsable de la licence professionnelle éco-paysage végétal urbain, éco-pur. Une licence professionnelle qui forme des futurs aménageurs et gestionnaires de parcs et jardins à l'écologie et au respect de la biodiversité. Je travaille à l'Université Paris-Saclay, à la Faculté des sciences d'Orsay. Donc, moi, ma formation initiale, c'était de faire une thèse en biologie et en génétique des populations. Je me suis toujours intéressée aux plantes. C'est une passion que j'essaie de transmettre aux étudiants, mais aussi au grand public, lors de journées portes ouvertes ou lors de la fête de la science. Où j'organise, par exemple, des ateliers sur les fruits, où je fais découvrir qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce que sont les graines, etc. Pour l'année prochaine, en 2023, je suis en train de co-organiser une exposition sur les angiospermes. Donc, c'est-à-dire les plantes à fleurs, qui va permettre de valoriser, notamment dans nos collections, des herbiers, certaines planches assez anciennes, qui datent du 19e siècle. On veut valoriser ces collections. Donc, l'année dernière, on avait réalisé une exposition sur les vertébrés. L'année prochaine, on fera une exposition sur les plantes à fleurs. J'ai fait aider des étudiants de l'école Estienne, des étudiants d'école de dessin, qui nous ont aidés à réaliser les illustrations sur les posters. On a aussi une carpothèque. En plus d'avoir une collection de roches assez variée pour la géologie, on a une collection donc de fruits et on a également des animaux empaillés. On a une collection quand même assez importante de naturalistes qui sert essentiellement à l'enseignement pour les étudiants, qui sert pour faire des démonstrations, pour faire des expositions.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant pour toi ? Comment le définis-tu ? Est-ce que tu pourrais lui attribuer 3 mots, une couleur, une odeur, un son, un goût, une texture ?
D'abord, la diversité, une énorme diversité à toutes les échelles, à l'échelle spatiale, à l'échelle temporelle, à toutes les échelles. Et c'est décrit évidemment par une quantité d'espèces énormes, y compris d'espèces qui n'ont pas encore été décrites. En fait, une grande quantité d'espèces de plantes n'ont pas encore été correctement décrites et sont présentes sous forme d'échantillons dans des herbiers, alors qu'elles ont peut-être déjà disparu sur le terrain. Donc ça, je trouve ça très émouvant de savoir qu'on a cette immense diversité dans le monde et qu'on en connaît seulement une petite fraction et qu'en plus, une partie énorme qui est en train de disparaître. Ensuite, l'évolution, comprendre vraiment le vivant, comprendre qu'en fait, c'est jamais stable, jamais figé, c'est toujours en mouvement. Le choix, c'est Socrate qui dit « panta rei », c'est-à-dire « tout coule, tout passe, rien ne demeure ». Le monde est en perpétuelle évolution. Le vivant, il ne se laisse jamais complètement enfermé dans des boîtes ou enfermé sous des étiquettes, puisque il est en perpétuelle évolution et c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir et à comprendre. Et le dernier point, l'effondrement, c'est-à-dire c'est un rétrécissement, c'est une diminution très importante du nombre d'individus dans les populations, c'est à ça qu'on fait face. Donc c'est un effondrement des populations, un effondrement de la biomasse, notamment ce qui a été documenté c'est chez les insectes et les oiseaux, et ça a été mesuré sur ces 30 à 40 dernières années. Ça fait très très peur parce qu'il ne s'agit pas juste d'une petite baisse de 4%, 5% ou même 10%. On parle de diminution de 70-80%. 90% pour certaines espèces. Donc ça devrait faire très peur. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que ça ne semble pas inquiéter la majorité des gens, et notamment de nos dirigeants. L'impression que la plupart des gens, ne les intéresse pas, ne les passionne pas, ne les inquiète même pas. Et effectivement, comme dit Pierre-Henri Gouillon, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens de vivre avec une trentaine, une quarantaine d'espèces, ça leur suffirait. Des quelques plantes cultivées, quelques animaux d'exploitation, et c'est à peu près tout ce qui les intéresse, quoi. Donc une couleur, le vert évidemment, parce que c'est la lignée verte, c'est la base de tout le vivant sur Terre, puisque ce sont les plantes photosynthétiques, hein, au départ les bactéries photosynthétiques qui ont produit l'oxygène, qui a permis de changer complètement l'atmosphère et de faire apparaître ensuite tout le reste et faire exploser la diversité du vivant sur Terre. Et c'est eux qui sont aussi capables de fabriquer de la matière organique à partir juste de lumière et de CO2. C'est un truc absolument fantastique. Que, ironiquement d'ailleurs, l'homme essaye d'imiter en ce moment pour essayer de faire des pièges à CO2. C'est assez rigolo d'imaginer qu'on est en train d'imaginer des machines, de fabriquer des machines à piéger le CO2, alors que les arbres font ça naturellement. Et comme le dit Francis Allais dans un de ses livres, les plantes pourraient très bien se passer, au moins à court terme, de tous les animaux. Si on faisait disparaître tous les animaux, tous les champignons, les plantes, elles se débrouillent très bien, mais alors les animaux, eux, pas du tout. Si on fait disparaître les plantes, les animaux, ils mourraient très très rapidement. Donc c'est vraiment à la base une odeur. L'odeur des bourgeons, des peupliers, qui commencent à s'ouvrir. Pour moi, ça annonce le printemps. Alors ça, c'est une odeur très forte qu'on a au mois d'avril, quand il a plu, et qu'on a ces bourgeons de peupliers. C'est une odeur forte et pas forcément super agréable d'ailleurs. Un son, alors le chant des oiseaux dans une forêt, c'est le chant des oiseaux, notamment le chant du rouge-gorge. Un goût, si je veux rester dans le thème du vert, c'est le goût des petits pois crus qu'on croque quand on est en train de les écosser. Une texture, alors le toucher, c'est un sens qu'on utilise en fait beaucoup en botanique dans la reconnaissance des végétaux. Et en particulier, toucher sur les feuilles des végétaux. Les feuilles de tilleul qui sont extrêmement douces, par opposition aux feuilles d'orme qui sont presque rugueuses et que moi j'appelle des feuilles mal rasées. Voilà, donc l'orme est mal rasée.
Comment est-ce que tu retranscris ta vision du vivant dans tes projets de recherche, d'aménagement ?
En mes enseignements, je suis responsable d'un module biodiversité dans lequel j'essaye de donner des pistes concrètes aux étudiants pour réaliser des aménagements paysagers qui puissent fonctionner comme des écosystèmes, c'est-à-dire savoir accueillir la biodiversité. Et ça commence par désimperméabiliser les sols. Il y a de nombreux projets de mes étudiants sur des cours d'école. Ensuite, ça consiste à donc planter des, ce qui permet vraiment de rafraîchir. Et ensuite, rajouter des strates de végétation, les vivaces, les prairies, rajouter des arbustes et des arbres. C'est vraiment la dernière étape, hein, c'est de se préoccuper de quelles espèces on va mettre dans ces aménagements pour accueillir vraiment la biodiversité. J'insiste beaucoup sur le fait que ce sont les plantes indigènes, notamment les arbres et arbustes indigènes, qui permettent d'accueillir le mieux les insectes, les oiseaux et toutes les autres espèces qui vont pouvoir se nourrir, qui vont pouvoir y habiter et pouvoir s'y développer. On pense les aménagements, les jardins, d'abord et avant tout pour notre propre plaisir à nous. Il ne faut pas oublier là qu'il y a une crise majeure de biodiversité et que ces lieux d'aménagement, ces moindres endroits de verdure peuvent servir à accueillir la biodiversité. On plante un arbre, on plante un écosystème. Bah, le défi justement qui est lancé, c'est d'essayer de concilier tous les différents enjeux, tous les différents usages que l'on veut mettre dans un espace vert. Que ce soit donc les usages humains, mais aussi intégrer les usages de biodiversité, donc les usages écologiques et le rafraîchissement également. Plus la surface est grande, et plus on va pouvoir faire de choses intéressantes, et notamment accueillir un grand nombre d'espèces.
Qu'est-ce que l'humain, selon toi, pourrait apporter à l'ensemble du vivant ?
La première chose, c'est déjà réaliser, mesurer l'ampleur de la crise actuelle de la biodiversité. Regarder ce qui se passe et déjà se rendre compte de ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens s'en fichent complètement, ne sont pas vraiment au courant, ont vaguement entendu parler, mais pensent qu'il s'agit juste de l'ours polaire qui est menacé ou de l'abeille domestique qui meurt, mais c'est à peu près tout. Mais non, en fait, c'est une crise majeure qui concerne un grand nombre d'espèces, un grand nombre d'écosystèmes. Tous les écosystèmes sont concernés. On sait la cause principale de l'usage des massifs des pesticides, notamment dans les agrosystèmes, et qui est la cause de l'effondrement des insectes et des oiseaux. Deuxième truc, je pense qu'il faudrait, une fois qu'on a compris ça, changer nos pratiques. Donc nos pratiques, c'est quoi? C'est nos pratiques de destruction des écosystèmes, d'imperméabilisation des sols. Ben ça, il faut vraiment mettre un frein le plus possible à ces pratiques-là. Donc désimperméabiliser, comme j'ai déjà dit, mais ça veut dire aussi faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire réutiliser tous les bâtiments qui existent déjà et toutes les zones déjà imperméabilisées, les utiliser au mieux. Ça, c'est un défi lancé aux architectes. Il y a un autre point qui m'inquiète beaucoup, qui est la notion de compensation écologique. En fait, il y a une séquence qui s'appelle éviter, réduire et compenser. C'est l'idée que quand on va construire quelque chose, on va faire un projet, on va sans doute détruire une partie des écosystèmes qui étaient présents sur place. Et donc l'idée, c'est de éviter au maximum de les détruire, ou bien réduire cette destruction, ou bien quand vraiment on peut pas faire autrement, et ben compenser en créant d'autres écosystèmes à un autre endroit. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette idée de compensation écologique, en fait, c'est un peu une arnaque, hein, que ça marche pas vraiment, qu'en fait on n'arrive jamais à complètement compenser la destruction d'un système, notamment la destruction d'arbres qui sont peut-être âgés, des écosystèmes qui ont mis énormément de temps à se mettre en place. C'est très difficile de compenser ça en recréant d'autres écosystèmes. Et puis le dernier point là que je voulais aborder, c'était la végétalisation. Alors on parle beaucoup de végétalisation en ce moment, végétalisation urbaine. On parle beaucoup également de planter des arbres. J'ai entendu planter 1 milliard d'arbres en 10 ans en France là. Et pour moi, il faudra être extrêmement vigilant. Ça veut dire que quand on veut végétaliser, on peut mettre en fait tout et n'importe quoi, et on peut faire des choses qui en fait ne conviennent pas du tout à la biodiversité. Par exemple, faire des monocultures qui de toute façon ne vont pas accueillir la grande biodiversité que pourrait accueillir une forêt diversifiée et plantée avec des essences locales. Donc il faut essayer bien sûr donc de planter des végétaux locaux, mais également tenir compte du changement climatique, parce que quand on plante un arbre, c'est pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, et donc dans un contexte de changement climatique, c'est quand même assez difficile de prévoir qu'est-ce qui va pouvoir tenir bon. Et donc on est dans un contexte dans lequel on a un déplacement en fait des aires de répartition. Les aires de répartition des espèces se déplacent vers le nord, dans les latitudes plus nordiques. Donc si on veut planter des arbres, il faut tenir compte de ce déplacement. Il faut imaginer aider à ce déplacement pour les espèces ligneuses, justement. Toi le seul et le seul et le nid, mais qui part sans moi,
toi qui part sans moi. On va passer à la question d'actu. Le 20 septembre dernier, le Conseil d'État a reconnu le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale. Il s'agit là de la 39e liberté fondamentale reconnue par la haute juridiction administrative. Liberté dont la possible violation peut désormais être invoquée devant le juge du référé liberté. Invoquée dans plusieurs affaires déjà, il reste encore compliqué de faire valoir cette liberté étant donné la difficulté à définir juridiquement le caractère urgent de ces requêtes. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de faire du droit de vivre dans un environnement équilibré une liberté fondamentale ?
Extrêmement intéressant comme notion. C'est un petit peu fou cette notion de environnement équilibré. Il faudrait vraiment aller plus dans le détail de la définition. Moi, je pense que l'environnement équilibré, c'est aussi pas seulement un environnement qui soit physiquement agréable et physiquement au moins insupportable. Hein. Je pense au réchauffement climatique et aux îlots de chaleur urbains qui sont rendus insupportables en l'absence de toute végétation. La végétation joue un rôle très important par rapport à ça, mais elle joue également un rôle très important dans l'équilibre psychologique des gens. Et ça, on s'en est aperçu pendant le confinement, où on a empêché les gens d'aller se promener dans la nature. Ça a été terrible. Je pense que l'environnement équilibré, là, dont vous parlez, c'est d'avoir droit à un coin de nature. D'ailleurs, le bien-être en ville, on le mesure au nombre de mètres de verdure dont ils disposent. Faire appel à cette liberté-là, ça peut permettre effectivement de faire évoluer les choses plutôt dans le bon sens.
Est-ce que tu aurais des références de travaux similaires, d'aménagements que tu trouves inspirants?
Il y a une série qui est valable, qui est disponible actuellement sur France 5 et qui s'appelle Les super pouvoirs des plantes. The Green World pour les amoureux des plantes. Très belles images, très beau texte, donc c'est assez inspirant. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une excellente conférence de mon ancien professeur Pierre-Henri Gouillon, qui lui m'a vraiment inspiré sur la biologie évolutive. Hein. Et c'est une conférence qui se dédie à l'effondrement de la biodiversité, donc je conseille tout le monde d'aller voir. Et donc il insiste beaucoup, et je pense que c'est un point vraiment essentiel, c'est le fait que le monde, que le vivant donc, est en évolution perpétuelle. Et que si on les fige, si on essaye de les conserver en les figeant, et ben en fait elles meurent. C'est votre génération qui va faire bouger, qui va faire changer des choses. Je mets grand espoir sur la génération qui arrive. C'est pas facile, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande une lutte de chaque jour.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ? Voici que cet épisode auprès de la biologie et de l'écologie scientifique prend fin. La semaine prochaine, nous quittons les boîtes à pétri du vivant pour retrouver une autre vision de ce qui compose notre planète.
Tremble, tremble être noyée.